Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Le 1er février, le taux du livret A va doubler et atteindre 1%. Ce produit d'épargne deviendra-t-il pour autant plus intéressant à l'heure où l'inflation reste galopante? Ou faut-il placer son argent en 2022? C'est l'enquête de la semaine. Les performances de lavage, de séchage ou encore le bruit sont-ils des critères à prendre en considération au moment de faire l'acquisition d'un lave-vaisselle? Oui, je ne vous parlais pas de votre mari, mesdames. Ou est-ce que finalement, ils se valent tous? Eh bien, c'est la question de la semaine. Et puis, à quelques jours des festivités du Nouvel An chinois, faisons voyager nos papilles. Quelles sont les spécialités traditionnelles qui se dégustent lors de cette fête et comment s'initier à la cuisine asiatique? Eh bien, ça, c'est la recette de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Commencez le week-end en votre compagnie. Eh bien, on s'en réjouit. Argent, conso, cuisine, nous voilà bien. C'est votre allié malin du samedi matin qui n'a pour seule vertu que de vous faciliter la vie. Alors c'est parti. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Philippe Crevel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce samedi matin. Vous connaissez cette chanson qu'on est en train d'écouter, Money Song des Monty Python. C'est votre sonnerie de téléphone?
Non, moi c'est Monet de Pink Floyd.
D'accord, ok, chacun son truc. Vous êtes directeur du Cercle de l'Épargne. Le Cercle de l'Épargne, c'est quoi? C'est un think tank,
c'est ça qui est dédié? C'est un centre d'études et de réflexion sur l'épargne, le patrimoine et la retraite.
Ouais.
On existe depuis une dizaine d'années. Et
très
donc,
bien.
Voilà, on suit tout ce qui est évolution de l'épargne.
Très bien. On a à vos côtés, on l'accueille tout de suite, André Tan. Bonjour André.
Bonjour Philippe.
Merci d'être là. Vous êtes cofondateur de restaurant parisien de cuisine asiatique. On reviendra avec vous en fin d'émission sur la cuisine asiatique. Pourquoi je vous accueille maintenant? C'est parce que comme vous êtes en studio, si vous avez des questions à poser à notre invité, vous n'hésiterez pas. Je ne sais pas si vous êtes un roi de l'épargne ou si vous êtes quelqu'un qui profite. Bah justement, vous allez pouvoir nous aider, Philippe Crevel. Le taux du livret A va doubler. On nous l'a dit, à partir du 1er février, il va passer de 0,5 à 1%. Depuis 2011, il n'avait fait que baisser. Donc, compte tenu de l'inflation, est-ce que le rendement du livret A est positif?
Eh bien, non. Le rendement du livret A reste négatif parce que l'inflation, actuellement, c'est plus de 2%.
D'accord.
Et donc, avec un livret A à 1%, on est en rendement réel négatif d'au moins un point. Et puis si l'inflation est amenée à continuer, ça va encore se creuser, parce qu'il n'y aura pas de nouveaux changements avant le 1er août 2022. Donc ce n'est pas là où on va gagner de l'argent. Oui, le rendement reste négatif.
D'accord. Mais concrètement, si je place 5000 euros sur mon livret A le 1er février, là, combien est-ce qu'il va me rapporter d'ici la fin de l'année? 50 euros?
50 euros, vous avez bien calculé. C'est bien ça. Avant la hausse, enfin, qui va intervenir le 1er février, c'était 25, vous passez à 50.
Ouais.
Oui, évidemment, ça ne change pas la vie. Et pour monter un restaurant chinois, ça va être un peu insuffisant.
Bah oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, André Tan?
Mon argent. Mais
voilà. Pour vous, ce n'est pas du domaine de l'évidence. Quelle fiscalité pour le livret A?
C'est très simple. Et ça, les Français adorent.
Ouais. Ah bah oui.
Pas d'impôt sur le revenu et pas de prélèvements sociaux. 0%.
D'accord.
On vous offre 1% de rendement, mais en contrepartie, vous n'avez aucune fiscalité.
D'accord, ok. Donc ça, c'est l'avantage. Hein. On a
c'est
bien
l'avantage.
Compris,
il y a un deuxième avantage, c'est la garantie. L'État garantit le capital. Vous mettez 100 euros, le lendemain, vous avez toujours 100 euros, quoi
d'accord.
qu'il arrive.
On ne risque pas de perdre notre argent, quoi.
A priori, non. Il faudrait que l'État fasse faillite. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, il y a la garantie
d'accord.
de l'État sur le capital qui est versé sur le livret A.
Maintenant, les autres placements sécurisants, plus rémunérateurs que le livret A, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a le livret d'épargne populaire,
ouais.
2,2% à compter du 1er février 2022.
D'accord.
Mais c'est réservé à une certaine partie de la population. Il ne faut pas être imposable à l'impôt sur le revenu ou il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 20 000 euros. Il y a 15 millions de Français qui peuvent en bénéficier. Il n'y en a que 7 millions qui en ont ouvert un.
D'accord.
Donc il y a quand même aujourd'hui 8
c'est
millions
bien.
De Français qui pourraient en bénéficier avec un rendement qui est nettement supérieur au livret A. Là, ça sauve l'inflation. 2,2. Vous êtes au même niveau. Vous ne perdez pas en capital avec le livret d'épargne populaire.
Donc c'est celui qu'on appelle le LEP.
Le LEP. Oui.
Le LEP, d'accord. Ok. Il y a le livret jeune.
C'est
plus
pour
nous.
Hein, donc c'est pour les moins de 25 ans. Et là, il y a un rendement qui est égal au livret A, plus une petite prime. En général, c'est 0,25. 0,25 point ou 0,5 point, c'est la banque qui détermine la prime qu'elle accorde en plus du taux du livret A.
Donc il faut bien choisir sa banque aussi.
Et oui.
D'accord, ok. Donc il faut non seulement s'intéresser au livret jeune, mais s'intéresser à l'établissement bancaire
dans lequel on va offrir un taux différent.
D'accord. Les bons vieux PEL.
Il y a deux catégories. Ceux qui ne sont pas intéressants, ça veut dire tous ceux qui sont ouverts depuis le 1er janvier 2018, où là c'est 1% de rendement, fiscalisé, c'est pas intéressant. En revanche, les vieux PEL, ceux qui datent des années 2010-2015, là on va trouver des rendements de 2,5%. Donc surtout pas les fermer et là mettre de l'argent dessus. Parce que 2,5% aujourd'hui, garantie de capital, là il n'y a que les prélèvements sociaux, pas d'impôt sur le revenu, c'est intéressant.
Ok, et un dernier pour la route ?
Les fonds euros de l'assurance vie.
C'est quoi ça ? C'est l'assurance vie, quoi.
C'est l'assurance vie, les fonds euros, c'est rémunéré à peu près autour de 1,2%. Ça devient un peu moins intéressant que dans le passé, et on en parlera certainement tout à l'heure. Mais il y a d'autres solutions, mais ça reste évidemment un moyen de mettre son argent, on va dire, avec sécurité.
Mais c'est quoi d'ailleurs le principe de l'assurance vie ? Vous pouvez nous le rappeler, à qui ça s'adresse ça ?
C'est le premier placement des ménages. Ouais. 1860 milliards d'euros. Le livret A, c'est 340 milliards d'euros.
Ouais.
Premier placement des ménages. Près d'un Français sur deux a un contrat d'assurance vie. Et justement, c'est un contrat. Ce n'est pas un produit d'épargne. C'est un contrat qu'on a avec un assureur. On confie son argent à l'assureur.
Okay.
Et on lui dit, vous allez le faire prospérer. Et le moment venu, je peux le récupérer. Alors, soit je peux faire des rachats, ou soit il m'arrive malheureusement quelque chose, style un décès. Ce sont les bénéficiaires, les héritiers, ceux qu'on a mis donc, sur le contrat qui vont...
Voilà, moi je prends le contrat par exemple et je décide que ça va revenir à mes enfants.
Tout à fait.
D'accord.
Vous-même, vous pouvez d'ailleurs me choisir également.
Oui, non. Mais, mais je peux choisir aussi Julien, par exemple, qui est le producteur de cette émission.
Tout à fait.
D'accord.
Et vous pouvez déroger au droit justement des successions.
C'est ça.
Et dire, je donne donc à Julien ou à moi une partie ou la totalité.
Enfin,
vous n'avez pas le droit de déshériter complètement vos enfants. Et donc, c'est un contrat avec donc, un assureur. Ça bénéficie d'avantages fiscaux. Ça permet de préparer la succession.
Oui.
Et puis, dedans, donc, on peut faire des placements à l'intérieur de cette enveloppe fiscale.
La SCPI, c'est quoi ?
SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, pour les initiales.
D'accord.
C'est donc de la pierre papier. Je mets de l'argent dans une société civile, donc un fonds, et ceux qui gèrent ce fonds vont acheter ou vont construire des logements, des bureaux, vont prendre des fonds de commerce pour des restaurants chinois, par exemple, ou pour des entrepôts, pour des magasins. Et avec les rendements, ils vont verser des intérêts ou des dividendes aux bénéficiaires de la SCPI. C'est un bon rendement, 4,5% en moyenne. Ça a un petit défaut, les frais sont importants. Donc c'est un produit qu'il faut conserver plusieurs années.
Justement, l'immobilier, on va y revenir dans un instant parce qu'on se demande si c'est toujours une bonne option pour 2022 au regard de la situation. Ensuite, je ne sais pas, vous avez tous deux un lave-vaisselle, messieurs ?
Oui.
Oui, eh bien voilà. Bah oui, j'imagine, vous dites donc, André, si vous faites ça
à la main, dans
votre resto, ça va être compliqué. Il y a Adrien de San Isidoro, de 60 millions de consommateurs, qui nous rejoindra dans un instant. Et puis, on parlera évidemment cuisine avec vous, André Tan. À tout de suite dans Nous Voilà Bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Nous voilà bien, c'est le magazine du samedi matin qui vous aide à vivre mieux. Où placer son argent en 2022 ? On va reprendre notre conversation dans un instant avec vous, Philippe Crevel. André Tan, vous êtes notre invité également pour nous parler des plats typiques chinois. Et c'est vrai que votre livre, il est magnifique et j'ai super envie de m'y coller. Je pense que c'est ce que je vais faire ce week-end en sortant de ce studio. Et puis dans un instant, on parlera également des lave-vaisselles. Est-ce que tous les lave-vaisselles se valent ? Ce sera avec Adriane de Saint-Isidoro, de 60 millions de consommateurs. Mais pour l'heure, monnaie, on parle de notre argent. Et c'est donc avec vous, Philippe Crevel. Vous êtes directeur du Cercle de l'Épargne. Alors figurez-vous que moi, dès qu'on me met des chiffres sous les yeux, je ne comprends absolument rien et j'arrive à tout piger. Donc merci pour votre cours magistral sur l'épargne ce matin. Alors, investir dans l'immobilier, hein, parce que c'est vrai que quand on a de l'argent aujourd'hui, on a envie d'investir, mais de façon quand même sécurisée parce que les temps sont compliqués. Est-ce que c'est toujours une bonne option en 2022 ? Parce qu'il y a l'évolution du prix de l'immobilier et les taux d'emprunt et les choses ne sont pas simples en ce moment.
Les Français adorent l'immobilier. Hein. Deux tiers des Français rêvent d'investir dans l'immobilier selon une enquête qu'on avait réalisée pour le Cercle de l'Épargne avec l'IFOP. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les prix sont très élevés. Évidemment, plus les prix sont élevés, plus le risque, évidemment, qu'à un moment donné, ça baisse, augmente. C'est mathématique, c'est simple. Mais comme tout le monde veut la même chose, et puis qu'il y a une rareté du foncier aujourd'hui, on n'a plus le droit de construire parce qu'il y a les normes environnementales, parce que dans les villes, on aime bien ceux qu'on connaît, mais on n'a pas forcément envie d'avoir des nouveaux résidents. Donc, il n'y a plus de foncier. Mmh. Et dans certaines villes, aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver un bien immobilier. Et donc, ça fait monter mathématiquement les prix des logements. Et donc, c'est vrai que ça peut encore se poursuivre et les prix peuvent encore augmenter. Le problème, évidemment, c'est est-ce qu'on peut encore emprunter de l'argent ? Depuis le 1er janvier de cette année, il faut avoir un apport pour acheter un bien immobilier plus important qu'en 2020. Il faut au minimum 30% d'apport.
D'accord, donc on ne peut pas partir en prenant un crédit à 100%.
Sauf exception, les banques ont une marge leur permettant, selon les dossiers, d'accepter. Mais la règle, c'est au minimum 30%, sauf dérogation. Les taux d'intérêt restent aujourd'hui très, très, très faibles. Et puis, comme il y a de l'inflation, ceux dont les revenus sont indexés sur l'inflation, ils ont tout intérêt aujourd'hui à acheter l'immobilier.
Parce que
si les salaires augmentent, si par exemple les restaurants chinois peuvent faire répercuter les augmentations liées au riz par exemple, et dans ces cas-là, acheter l'immobilier est un bon plan.
D'accord.
En revanche, si on a des revenus non indexés, ça peut être un peu plus difficile.
Okay.
Donc aujourd'hui tout va bien parce que les taux d'intérêt. Mais peut-être que ça va changer quand les banques centrales vont durcir leur politique monétaire. Donc on attend ça dans le courant de l'année, fin d'année et puis 2023. Donc c'est plutôt le moment d'y aller. Il faut peut-être se précipiter.
D'accord, ok. On a compris que le LEP, le livret A, le livret jeune, le bon vieux PEL, vous nous en avez parlé, et les fonds euro assurance vie, ça c'est les placements à court terme pour les auditeurs qui ne veulent pas prendre
l'assurance
de méga-risques.
C'est moyen terme
moyen
et long terme.
Oui, 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 voilà. On espère d'ailleurs le plus long possible, évidemment. Mais enfin bon, ça c'est pour les auditeurs qui sont les...
Pas envie de prendre des risques,
voilà,
comme on dit.
Voilà, exactement. Alors pour les plus audacieux, justement, qu'est-ce que vous conseillez comme plan d'épargne ?
Quand on a envie de rendement aujourd'hui, il faut aller sur le marché actions. L'année dernière, ça a été assez bon. Par exemple, le CAC 40, l'indice parisien, plus 28,85%. C'est mieux que le livret A, 1%. Mais évidemment, il y a du risque. On peut avoir des baisses importantes. Mais sur le moyen et le long terme, il est admis que les actions rapportent plus que le livret A, que le fonds euro de l'assurance vie. Donc, il faut plutôt aller vers les actions. Après, on peut prendre un compte-titre, tout simple, ou on peut aller sur un plan d'épargne en actions qui offre des avantages fiscaux. Au bout de 5 ans, ça, on a donc une fiscalité zéro pour l'impôt sur les revenus, sur les plus-values, et on n'a que les prélèvements sociaux. C'est assez intéressant. On peut également mettre ses actions sous forme d'unité de compte dans son contrat d'assurance-vie et bénéficier de la fiscalité attractive de l'assurance-vie. Donc, c'est des possibilités pour mettre des actions et pour avoir du rendement sur du moyen et du long terme.
D'accord, merci beaucoup pour tous vos conseils, Philippe Crevel.
Ben avec plaisir.
Je rappelle que vous êtes directeur du Cercle de l'Épargne. Vous avez tout pigé, André Tan ?
Pas tout à fait.
Mais... Eh ben, vous allez pouvoir vous revoir après
vous
l'émission.
Vous m'invitez dans votre restaurant et je fais ça gratuitement.
On va s'en reparler, exactement.
Allez, on file rejoindre Adriane de San Isidoro.
Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle ? Les mains dans la mer.
Ben, ça va très bien.
Merci d'être avec nous. Bah oui, on apprend à épargner. Si on avait de l'argent, on saurait où le mettre, en tout cas grâce au conseil de Philippe Crevel. Mais pour l'heure, la question de la semaine, et évidemment, vous êtes à 60 millions de consommateurs que l'on retrouve en kiosque en ce moment. Vous êtes un peu le pro du lave-vaisselle, si je puis dire. Et donc, Adriane, est-ce que tous les lave-vaisselles se valent ? C'est la question de la semaine. C'est quoi les critères à prendre en considération lorsqu'on en achète un ?
Le premier, c'est d'abord sa capacité, qui peut varier de deux petits couverts pour les mini lave-vaisselle à une quinzaine pour les plus gros. Alors rappelons qu'un seul couvert correspond à un ensemble d'assiettes, récipients et autres fourchettes, couteaux et cuillères.
Ouais.
Il faut aussi jeter un œil à l'étiquette énergie, qui évalue de A à G la consommation d'électricité de l'appareil. Bon, plus on se rapproche de la lettre A, plus la facture annuelle électrique se rabasse. Enfin, et c'est un peu le béaba avant d'acheter un lave-vaisselle, vérifiez bien de disposer d'une prise électrique, d'une arrivée d'eau, ainsi que d'un système de vidange, des eaux usées. Parce que sans ces prérequis, vous ne pourrez tout simplement pas installer votre lave-vaisselle.
La marque de lave-vaisselle la plus performante en termes de qualité de lavage, selon votre étude, c'est quoi ?
C'est Siemens, qui arrive en tête de notre essai.
D'accord.
Que ce soit en performance de lavage ou en séchage, ce fabricant donne très largement satisfaction.
Ouais.
Et en matière de performance, il est talonné par la marque Miele, qui est bien aussi. Okay. Tout en bas du classement figure la marque Candy, pénalisée entre autres pour sa consommation électrique importante et son bruit trop élevé.
Les plus performants, ce sont toujours les plus chers ou c'est quoi le bon prix d'un lave-vaisselle d'ailleurs?
Les trois premiers lave-vaisselle de notre essai sont vendus entre 750 et 960 euros et ils sont vraiment de loin les plus chers du panel. Mais heureusement, on peut en trouver à moins de 500 euros qui donnent satisfaction. C'est par exemple le cas de celui de la marque Hotpoint qui est testé dans notre essai, qui affiche des résultats tout à fait satisfaisants. Donc là, il est vendu à 450 euros. C'est quand même deux fois moins élevé que le modèle Siemens, par exemple.
D'accord. Moi, je suis toujours paumée dans les programmes, mais vraiment. Hein. Alors, ouais. Je mets toujours le cycle éco parce que je me dis, tiens, c'est plutôt bien. Ça sonne ouais. plutôt responsable. Est-ce que ça lave mieux que le cycle auto qui adapte la température de l'eau en fonction de la charge? Qu'est-ce qu'il faut faire?
En fait, le cycle éco est plutôt performant. Il lave aussi bien globalement que le cycle auto. Il fait parfois même mieux dans la partie séchage que le cycle auto. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle éco prend plus de temps à boucler parce qu'en fait, la température est plus basse et ça dégrade plus lentement les tâches. Concrètement, sur le Samsung qu'on a testé, on passe de 2 heures à 3 heures.
Faut pas être pressé.
Faut pas être pressé.
Bon. Et en même temps, on peut aussi le faire pendant les heures creuses, je dirais. C'est toujours un bon plan, ça d'ailleurs, pour réduire sa facture d'électricité.
Les heures creuses, c'est toujours intéressant de le faire. Ça baisse la facture. Vous avez aussi la possibilité de lancer des demi-charges qui sont pratiques pour baisser la quantité d'eau et d'électricité pendant le cycle. Si jamais vous avez la moitié de votre machine qui est remplie. Quoi.
D'accord. Et les modèles ou marques de lave-vaisselle les plus bruyants aussi? Parce que ça c'est, je trouve que c'est un critère important.
Surtout si vous utilisez le mode éco et que vous en avez pour des heures de lavage.
Ouais.
Le LG, c'est le plus bruyant de notre sélection. Il pointe à 59 décibels. Alors, 59 décibels, ça correspond grosso modo au bruit d'un marché animé, mais dans votre cuisine.
Ah bon?
C'est quand même un peu embêtant. Candy, Siemens, ces ProLine sont aussi assez bruyants.
Ça fait du monde à la maison. Oui, pardon.
Et le Hotpoint, décidément une bonne référence qu'on met un peu en avant dans notre essai, est le plus silencieux de la sélection avec 44 décibels affichés au compteur, soit l'équivalent d'un bruit que vous avez à votre bureau dans des conditions normales.
Oui, normal, parce que quand on a des collaborateurs bruyants, je peux vous assurer qu'on atteint facilement les 59 décibels. On va se retrouver dans un instant parce qu'on a encore des questions à vous poser. Oui, je fais une dédicace aux gens de mon équipe qui me regardent. On va se retrouver dans un instant pour continuer cette conversation autour des lave-vaisselle, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
André Tagne, il est cofondateur de restaurants parisiens Panda Panda, Tiger Tiger. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. On va vous retrouver dans un instant. Vous allez nous donner donc des recettes à l'occasion du nouvel an chinois. Vous allez nous donner envie justement de découvrir la cuisine asiatique. Dites donc, vous en avez combien de lave-vaisselle, vous, avec vos restos?
On a peut-être 5-6 là maintenant. Là. Plus ceux que j'ai chez moi, ça fait pas mal. Ouais.
Voilà, et ils sont à 59 décibels aussi. Ils font du boucan, les vôtres, ou pas?
Énormément.
Voilà. Donc vous écoutez bien les conseils d'Adriane de Saint-Isidore, de 60 millions de consommateurs. 'Dites-moi, Adriane, j'étais en train de penser à quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir genre le lave-vaisselle de notre vie? Alors, je m'explique, parce que la question de la semaine, c'est est-ce que tous les lave-vaisselles se valent? Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi s'il y en a qui durent. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une vieille longue histoire d'amour.
Les professionnels revendiquent même une durée moyenne de 11 ans.
Ah oui, donc c'est plus long que mes histoires d'amour.
Mais en fait, c'est une estimation qui varie selon nos appareils et les marques et qui est un peu difficile à vérifier. Nous, à 60 millions de consommateurs, l'an dernier, on a sondé plus de 6000 Français pour savoir, entre autres, quelles étaient les marques de lave-vaisselle les plus fiables. Et selon les sondés, c'est les marques Miele, Beko et Bosch qui sont arrivées en tête.
Et les moins bons, alors, tant qu'on y est?
Il y avait Electrolux, Whirlpool et Brandt.
D'accord. Ouais. Il y a certains modèles aussi qui sont dotés d'options intéressantes et utiles.
On en a parlé tout à l'heure, il y a l'option demi-charge qui peut être utile si on veut lancer une machine à moitié remplie et réaliser des économies d'eau et d'électricité. Vous avez aussi la fonction 3 en 1. C'est un brin gadget au sens où elle permet d'optimiser la dissolution des tablettes pour mieux diffuser le sel, le détergent et le liquide de rinçage. Bon, c'est très bien. Mais dans les faits, il n'y a pas besoin d'avoir cette option dans son appareil pour utiliser des tablettes 3 en 1.
Tu m'étonnes. Oui, enfin bon, moi ça ne me vient pas à l'esprit. Quoi. C'est là pour le coup, on est d'accord que c'est pas le truc qui va tout changer.
Non, c'est pas révolutionnaire.
Comment est-ce que je décrypte l'étiquette énergétique de mon appareil? Il faut juste pas dégringoler vers le G, c'est ça?
Ouais, exactement. Vous regardez et puis plus ça va vers le bas et plus ça tend vers le G, plus l'appareil sera gourmand en électricité.
Parfois, on nous demande de nettoyer le filtre.
Alors, la fréquence de nettoyage du filtre, ça dépend un peu des modèles. Il faut le nettoyer à chaque lavage ou une fois par semaine ou une fois par mois. Pour le savoir, il vaut mieux jeter un coup d'œil à la notice de l'appareil. Le risque, si on ne nettoie jamais son filtre, c'est de réduire les performances de lavage, voire de provoquer une panne à long terme.
Ça oui, normalement, se rince, c'est ça.
Et ça se rince, ouais, parce que sinon, okay. En fait, il peut y avoir des saletés voilà, qui encrassent le filtre.
D'accord.
Et donc, ça limite les performances de l'appareil.
Bon, et dites-moi, je fais ma vieille mamie là, un peu rigide là, quand je rince mes assiettes et mes plats avant de les mettre dans le lave-vaisselle ou pas?
Votre mamie a tort, puisque les lave-vaisselles...
Ah, c'est moi la mamie, c'est moi qui fais ça.
Ah, d'accord.
Vous pouvez me le dire, hein, je suis ridicule.
Je vous le dis, Flavie, vous n'avez pas besoin de laver la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle, puisqu'en fait, ces machines sont censées pouvoir retirer toutes les tâches, y compris les plus tenaces, sans devoir les ramollir au préalable avec un filet d'eau.
Sur le long terme, les marques de lave-vaisselle qui ont un meilleur rapport qualité-prix, on s'est compris. J'imagine qu'il y a Hotpoint.
Il y a Hotpoint, mais il y a aussi ProLine et Essentiel B. Alors, si on prend le ProLine, prix d'achat et consommation annuelle électrique confondus pendant 10 ans, ça coûte en tout 850 euros, soit un montant global moins élevé que les prix de vente des Siemens et Miel Vutex qui sont commercialisés tous les deux à plus de 900 euros. C'est quand même assez intéressant.
Bon, c'est super. Merci pour tous ces conseils, Adriane. Vraiment. Ouais. Vous aimez la cuisine asiatique?
J'adore la cuisine asiatique.
Ah ben, Andretan va nous donner plein de recettes, donc vous restez à notre écoute. À la prochaine. Je rappelle que 60 millions de consommateurs est actuellement en kiosque. Merci pour tous vos conseils.
Salut, salut.
Avec China Girl, André Tan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur de restaurant parisien Panda Panda dans le 10e, Tiger dans le 10e, et le petit dernier là qui a ouvert hier, c'est Baobar. Alors,
c'est Baobar qui a ouvert hier et qui se rouvre dans le quartier du Marais.
Génial, ça s'est bien passé?
Oui, très très bien, on attend d'avoir du monde, donc n'hésitez pas à passer.
Et puis votre livre, comment on dit?
Alors, ça s'appelle Mama Houhou.
Mama Houhou. Donc, c'est avec Lucas Soquet chez Webedia Books. Et c'est un ouvrage, en fait, sur la cuisine asiatique. Pop et décomplexé, m'a-t-on dit?
Tout à fait, exactement. Donc, on a une soixantaine de recettes, des recettes qu'on fait au restaurant.
Oui.
Et des recettes également, des recettes familiales que j'ai piquées à ma maman, à ma grand-mère, etc., qu'on a mis dans le livre. Tout est là et on a voulu faire des recettes assez simples et pour démontrer que la cuisine chinoise, finalement, était assez abordable. Voilà.
Mais vous savez que ça nous impressionne en fait, la cuisine chinoise. On se demande si on va y arriver, je trouve.
Nous, on a eu beaucoup de retours comme ça, de gens qui avaient peur de faire à manger, à cuisiner chinois. Et ce qu'on a voulu faire, c'est justement de se dire qu'avec quelques ingrédients, donc avec quelques sauces, quelques condiments, on peut faire pratiquement toutes les recettes du livre.
Génial. Les traditions du Nouvel An chinois, c'est quoi?
Là, on va rentrer dans l'année du tigre. On a souvent un réveillon qui se passe la veille du premier de l'an.
Ouais.
Alors c'est un réveillon où justement on invite toute la famille, souvent chez l'aîné. Donc la maison est décorée, donc on a des affiches avec des proverbes parce que les Chinois sont très superstitieux. Donc on fait cuisiner donc avec beaucoup de gens, les cousins, les tantes, etc. Donc souvent on fait à manger pendant toute la journée et le soir vient le grand banquet avec beaucoup de plats, une grosse dizaine de plats, beaucoup de gens autour de la table, c'est très bruyant, on mange beaucoup, très convivial, voilà.
Les plats du Nouvel An chinois les plus courants, on rentrera dans le détail tout à l'heure.
C'est souvent autour des symboliques, donc on va retrouver des raviolis, on va retrouver des nouilles. Donc les raviolis, c'est synonyme de prospérité parce que ça ressemble en fait aux lingots d'or de l'ancien temps.
Ah,
on a les nouilles qu'on a souvent aussi à table qui sont symboliques de longévité. Donc c'est la taille des nouilles. Donc attention à ne jamais les découper. Donc je me suis fait engueuler plusieurs fois là.
Ah oui, tu m'étonnes.
Quand j'étais petit.
Oh, bah, je le ferai pas. C'est pour ça qu'on les aspire.
Et après, dernièrement, on a aussi, on va retrouver du poisson.
Ouais.
Parce que la prononciation du poisson qui se dit U ressemble en fait à la prononciation du mot prospérité. Voilà. Donc les Chinois sont très dans la longévité, la prospérité, très superstitieux. Donc c'est les 3-4 plats phares qu'on va pouvoir retrouver pour le Nouvel An.
On se retrouve dans un instant. Parce que vous allez nous donner des recettes et ce sera vraiment avec joie parce qu'on a beaucoup à apprendre justement. On va voyager aujourd'hui dans les assiettes. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. 6h50, ça vous paraît difficile de cuisiner chinois, restez à notre écoute car André Tan est là pour nous décomplexer et nous permettre de nous y mettre avec des super recettes. Mama Huhu, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
C'est ça, c'est votre livre, La cuisine chinoise, pop et décomplexée, que l'on retrouve donc chez Webedia Books. André Tan, on parle de la cuisine chinoise, donc on a bien compris que ça n'était pas compliqué. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, les ingrédients à avoir chez soi pour cuisiner chinois, c'est quoi la base ?
C'est quelques sauces, donc la sauce soja, oui. L'huile de sésame, on va retrouver également du vin de riz pour venir déglacer, donner un peu de saveur, venir mariner les viandes. On va retrouver également du vinaigre. Donc ça, c'est quelques sauces de base qu'on peut retrouver maintenant. Ce qui est bien, c'est que
voilà, on les retrouve partout dans les grandes surfaces.
Mmh. Maintenant, on les retrouve assez facilement. Donc pas besoin de se déplacer dans des épiceries spécialisées.
Vinaigre de riz.
D'accord. Noir et blanc.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est un peu la base. Après, il y a quelques autres condiments, mais franchement, déjà avec ça, c'est un très bon début.
D'accord.
Et après, derrière, on a quelques condiments pour venir assaisonner les plats. Alors, ce que moi j'aime bien appeler le triptyque un peu magique de la cuisine chinoise, donc on a de l'ail, du gingembre et de la cébette. Donc, voilà, donc ça c'est très simple, ça se trouve
sur les marchés. Cébette c'est comme des petits oignons.
Exactement, c'est de l'oignon vert. Exactement.
Ouais.
Et on trouve ça sur tous les marchés maintenant, c'est super. Et après on a quelques éléments qui viennent agrémenter. On peut avoir un peu d'anis, de cannelle, qu'on trouve également en grande surface, un peu partout. Poivre du Sichuan, 5 épices, donc là c'est un peu plus complexe. Et un peu de piment, voilà. Donc avec ça, vraiment avec 5, 6, 7, 8 ingrédients de base, on peut faire pratiquement toutes les recettes qu'il y a dans le livre.
La différence quand même entre notre alimentation et la vôtre, ce sont les produits lactés, je crois.
Oui. Pour les Chinois, il n'y a pas beaucoup de produits lactés. Vous ne retrouverez pas de fromage à la table si vous êtes invité par des Chinois ou à la table de nos restaurants. Mais après, on utilise beaucoup, les Chinois boivent beaucoup de lait de soja, donc c'est une alternative. Mais c'est vrai que le lait n'est pas répandu.
D'accord. Il y a des desserts ?
Oui, alors il y a des desserts. C'est vrai que la cuisine chinoise, elle n'est pas connue pour ses desserts, comme la cuisine française, où on a une grande tradition de pâtisserie.
Exactement.
Mais on a pas mal de desserts. On a quelques desserts sucrés à base de bao sucré qu'on fait chez nous. Il y a également le malacao que nous, on adore et qui est un peu ma madeleine de Proust, qui est une espèce de génoise très légère, cuite vapeur. Donc c'est super léger pour finir le repas, c'est parfait. Mais c'est vrai que c'est assez léger au final et assez simple en termes d'exécution.
Vous parliez tout à l'heure de transmission, c'est-à-dire que dans votre livre, il y a des recettes de votre mère, de votre grand-mère. Est-ce qu'on cuisine en famille en Chine ?
Absolument. Oui, absolument. C'est une cuisine, je trouve, qui est une cuisine de transmission. C'est une cuisine de cœur. Vous allez voir dans le bouquin, il n'y a vraiment pas des grammages super précis. C'est vraiment un peu comme la cuisine italienne. Vraiment une cuisine de
familiale
qui se transmet. Donc nous, j'ai voulu transmettre en fait des recettes de mes parents. Donc la recette de ravioli que je vais vous donner là, c'est la recette de ma mère qui a été transmise par ma grand-mère. Donc, du coup, c'est beaucoup de cuisine de cœur et donc il n'y a pas de choses très techniques, mais c'est surtout des assaisonnements. Et après, c'est au goût de chacun de savoir si c'est plus salé, plus sucré, plus vinaigré, plus pimenté. Donc c'est vrai que c'est magique un peu avec la cuisine chinoise.
On y va avec ces fameux raviolis au porc. Alors moi déjà, tu vois, par exemple, ravioli, je me demande comment je le fais, quoi. Moi, la pâte à ravioli, je ne sais. Vous savez faire ça ou pas, monsieur l'épargnant ?
Non, je ne sais pas du tout.
Ah, bah, vous comment faites la cuisine ou pas,
Oui, oui, mais vraiment pas dans le ravioli. Donc,
mais qu'est-ce que vous faites, vous ?
Ah, moi, je sais faire des tartes aux pommes. Vous savez, je suis un peu normand. Donc, tout ce qui est pâtisserie un petit peu normande, ça, j'y arrive.
Avec la crème sur le côté.
Un petit peu de crème, oui.
Bah,
oui
évidemment,
oui.
Moi aussi, je suis normande. S'il n'y a pas de crème fraîche, ça ne va pas le faire. Mais exactement. Alors, franchement, moi, les raviolis, j'adore ça. Je ne suis pas foutue de les faire. André Tan, comment on fait ?
Alors, on va commencer déjà par une première base qui est la pâte. Donc ça, c'est très simple. C'est de la farine et de l'eau.
Oh bah d'accord.
On va partir sur une farine, donc T55 plutôt, qui est un peu plus élastique, un peu plus forte en gluten. Donc ça va être 300 g de farine pour à peu près 150 g d'eau.
D'accord.
Donc, on vient la mélanger, donc soit au batteur, soit à la main.
Okay.
On vient la travailler pour en faire une pâte un peu. Dès qu'elle va être un peu plus sèche, on va la filmer et la mettre à côté.
D'accord, voilà, c'est la mettre dans un film alimentaire.
Dans un film alimentaire, le temps que la pâte pousse un peu.
Okay.
Et là, on va attaquer dans un deuxième temps, alors la farce.
Oui.
Donc là, pareil, très simple, toujours avec des ingrédients de base que je vous ai cités tout à l'heure. Donc on va partir sur de la poitrine de porc haché. Donc là, on met par exemple pour une vingtaine de raviolis, ça va être pour près 500 grammes. Et derrière, on va juste mettre un peu de sauce soja, un peu d'huile de sésame, un peu de vin de riz, un peu de cébette, gingembre, un peu de sucre, sel, poivre. Et voilà, le tour est joué. Donc on mélange tout dans un petit saladier.
Le gingembre, en fait, on le hache au maximum, c'est ça ?
On l'épluche.
Oui.
Et derrière, on vient le couper en tranches et on vient le couper finement en petits morceaux.
D'accord.
Et on vient le mettre dans la farce.
Okay.
Donc ça va venir assaisonner en fait la farce et on va retrouver en fait ces parfums-là derrière après à la dégustation.
D'accord. Et comment je la mets ma farce moi après dans mes ta farce.
C'est là
tu
où
tu mets la
ça,
farce
c'est le côté
dans la
un peu
pâte.
Technique de
ah
bah la,
voilà, c'est ça.
De la recette, mais c'est un côté super ludique. Ça, c'est un plat vraiment à faire à plusieurs, plusieurs mains. C'est vraiment génial. Donc on prend la pâte, on va bien la portionner en petits tronçons, à peu près une quinzaine de grammes. On vient la rouler avec un petit rouleau à pâtisserie, à peu près pour obtenir des petits disques de 6-7 cm de diamètre. Mmh. On la met au creux de la main. Mmh. On vient mettre à peu près 20 grammes de farce. Et on vient juste sceller après le ravioli sur lui-même. Alors après, on a des pliages un peu plus compliqués. Mais après, voilà, on fait un peu, comme je vous dis, cuisine de cœur. On ferme, hop, et après, il vient la cuisson.
Je l'ai cuit à la vapeur ?
Il y a plusieurs cuissons possibles. Donc on peut faire soit vapeur. Donc là, 5-6 minutes en cuisson vapeur. Ou soit également, on peut le faire pocher. Donc dans un petit bain-marie, on les met 5-6 minutes et on les met de côté. Ou sinon à la poêle, on peut les faire gratiner avec juste un peu d'huile. 5-6 minutes, pareil. Donc voilà, c'est super parce qu'après, il y a pour une même recette, on a un peu plusieurs usages, plusieurs cuissons. Donc c'est là où c'est intéressant. Et on vient de déguster avec un peu de sauce soja et le tour est joué.
Merci beaucoup pour cette recette. Je sais que vous aviez également les nouilles chauffonnes au bœuf, mais ça, on les mettra sur nos réseaux sociaux car le temps nous manque. Mais merci beaucoup, en tout cas, André Tan, pour toutes ces recettes. Tenez, mon cher Philippe, vous repartez avec les recettes d'André et vous allez pouvoir me faire ça à la maison. Enfin,
merci.
À la maison, pas notre maison
vous
commune.
Les photos. Merci, voilà, Fabie, pour ces recettes. Je vais pouvoir me lancer et changer de la tarte normande, mais je vais continuer à la faire.
Vous pouvez la prendre en dessert, hein, ça ira
tout
très
à fait.
Bien. Hein, ce sera parfait. Merci beaucoup, André Tan, d'avoir
merci
accepté
beaucoup,
notre invitation. Mama Huhu, c'est donc votre livre avec Lucas Soquet chez Webedia Books et vos restos Panda Panda, Tiger Tiger et Baobar qui vient d'ouvrir dans le Marais à Paris. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. J'ai bien tout dit.
C'est bien, c'est parfait, Flavie.
Merci, messieurs, et à bientôt sur RTL. Car nous voilà bien, ça y est, c'est terminé pour cette semaine. L'émission est à redécouvrir en podcast sur l'application RTL et sur tous les sites partenaires. Et pour les recettes asiatiques, eh bien, rendez-vous justement sur RTL.fr. Moi, je vous retrouve lundi à 20h sur RTL pour Jour J. Jour J, c'est un magazine d'information passionnant qui s'intéresse aux grands événements qui ont jalonné notre histoire collective. À la semaine prochaine, 9h15, pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Et juste après les infos, on reste dans les papiers et la gourmandise, puisque c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end. À l'écoute d'RTL, je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.